Bonjour Françoise Nyssen.
Bonjour.
Le président de la République a présenté hier son plan pour la francophonie. C'est évidemment un moment fort pour la ministre de la Culture que vous êtes. Nous n'aurons pas le temps de tout évoquer puisque le discours a été long. Qu'est-ce qui vous paraît le plus important dans ce qu'a dit Emmanuel Macron hier lors de son discours ?
D'abord, merci, ministre française de la Culture. Je suis une ministre qui vient de Belgique puisque je suis franco-belge.
Vous êtes une vraie francophone.
Je suis... On peut dire un exemple de francophone, oui. C'est-à-dire que je me suis nourrie du français. J'ai eu le français en partage et le français m'a amené à planter mes racines en France. C'est important parce que c'est ce qui m'a le frappé dans ce discours. C'est le discours de quelqu'un, d'un homme vraiment engagé et engagé pour la langue. La langue, c'est l'hospitalité, c'est le partage, c'est l'apprentissage. Et c'est l'accompagnement, c'est le berceau de la création. Et c'est ça qui a été évoqué. Ouais.
Pour vous qui n'êtes pas née française, vous l'avez souligné, comment vous voyez cette passion pour sa propre langue en France ? Est-ce qu'elle est singulière ? Est-ce que c'est une spécificité française ?
La passion pour la langue française n'est pas une spécificité française. Chaque fois, et j'ai eu l'occasion de nombreuses fois d'être confrontée à des artistes, à des créateurs qui viennent du monde entier... et qui ont le français en partage, qui portent le français, et souvent le français est une langue de désir, et une langue de vie, et une langue qui se nourrit de leur langue, là où ils sont. La France est le seul pays francophone où il n'y a que le français. Mmh. La plupart des autres pays où se parle le français, il y a d'autres langues. Dans mon pays, il y a deux langues.
Bien sûr.
Partout. Donc le français s'enrichit aussi de cette confrontation, et c'est une langue où... de partage qui permet la diffusion du savoir et des œuvres. Et en cela, elle, de sa richesse, de son utilisation par une quantité incroyable de créateurs dans tous les champs de la création, c'est une langue de désir aussi.
Il y a eu, dans le discours d'Emmanuel Macron, un vibrant hommage au professeur de français qu'il a qualifié de héros, un plaidoyer en faveur des bibliothèques, lieux de culture, d'accès à la littérature. Plus d'étudiants étrangers seront accueillis en France et une maison des étudiants francophones sera créée à la cité universitaire. Ce ne sont que quelques-uns des éléments de son discours. Qu'est-ce qui fait la ligne directrice de tout cela ?
Je reviens sur ce terme de... hospitalité, oui. Et partage.
Échange.
Échange. Et on peut parler aussi de traduction, que vous, oui, n'avez pas évoqué, et qui est quand même c'est la langue de passage, c'est la langue de tous, la traduction. C'est ce qui permet de connaître l'autre, c'est ce qui permet la diversité culturelle. Sans traduction, on ne peut pas parler avec l'autre, donc on ne peut pas connaître l'autre. Donc c'est essentiel. Mais ce point commun de l'accueil, et j'insiste, et je trouve qu'il y a une formule qui m'a particulièrement touchée, c'est quand il a dit « le meilleur titre de séjour, c'est la langue, l'apprentissage du français,
ouais. ». Plus dans d'heures les d'enseignement, ça, dans très ce cadre-là, important. Pour les étrangers, les migrants qui arrivent en France,
voilà,
voire tripler,
ouais. Puisque aujourd'hui c'est quelques 200 heures, il a parlé de 400 heures, voire 600 heures. Ce que je voudrais souligner ici, parce que c'est quelque chose qui existe déjà et qu'on va accompagner, et c'est le propos du ministère de la Culture, c'est d'accompagner cette ouverture des bibliothèques, c'est ce travail formidable qui est fait. Donc je citerai par exemple la BPI, ouais, qui accueille, qui oriente les gens, qui leur propose de pouvoir apprendre le français. J'ai assisté à l'Opéra de Paris à un moment d'une association qui s'appelle HOPE et qui travaille sur l'apprentissage du français. C'est essentiel c'est une langue d'inclusion, et l'inclusion, c'est la pleine possession de cette langue permet l'émancipation.
Emmanuel Macron a parlé à plusieurs reprises dans son discours de la tentative hégémoniste de l'anglais, notamment à Bruxelles, c'est-à-dire à la Commission européenne. Il y a du travail à faire là dans ce domaine encore. On voit par exemple régulièrement sur le site de la Commission des textes qui ne sont pas accessibles en français. Comment la France peut-elle tolérer ça ?
Travaillons là-dessus. Les langues de travail sont pas que l'anglais. L'anglais est une langue de partage. N'en faisons pas ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment d'appuyer et de soutenir le français partout. Par exemple, le travail à faire sur les réseaux sociaux pour que le français soit une langue de partage, sur au niveau de la diffusion des films, que systématiquement les films soient sous-titrés. Voilà des actions très concrètes qui peuvent être faites et qui sont importantes.
Le nombre des étudiants étrangers, je disais, va être augmenté. Vous en savez plus d'ores et déjà sur comment ça va se mettre en place, selon quels critères
tout ça. Il a annoncé, c'est un grand plan qui se fera et qui sera annoncé début 2019. L'accueil des étudiants étrangers existe déjà dans toutes nos écoles d'art, parce que le ministère de la Culture a 99 écoles d'art, s'occupe de 99 écoles pour l'apprentissage de toutes les disciplines dans le domaine de l'art, de l'architecture, du design. Et c'est presque 35 000 étudiants. Et je vois bien, chaque fois qu'on va voir ces écoles, comment ces écoles aussi, non seulement accueillent, sont très demandées, mais s'enrichissent de la présence des autres étudiants et des étudiants de tous les pays. Une fois de plus, c'est exactement la même chose. Vous savez, c'est... Être ministre de la Culture, c'est aussi se préoccuper de cette ségrégation culturelle qu'il y a partout. Et cette ségrégation culturelle, elle pourra aussi s'atténuer par le partage de la langue et la confrontation à l'autre, et la prise en compte de l'autre.
Le combat pour la francophonie, a dit Emmanuel Macron, passe aussi par le combat médiatique. La France, je le cite, peut s'appuyer sur France Média Monde, qui touche 135 millions de personnes. Nous devons parvenir à 150 millions. Alors évidemment, vous vous en doutez, c'est un hommage qui n'est pas passé inaperçu ici à RFI, ainsi qu'à France 24 et à Monte Carlo d'Oilia. A fortiori, dans un moment où les médias du service public s'interrogent, s'inquiètent parfois même de ce qui les attend dans le cadre de la grande réforme de l'audiovisuel public annoncée par Emmanuel Macron. D'un mot d'abord pour notre chapelle ici à France Média Monde, puisque le président de la République annonce qu'il faut toucher plus de monde. On va plutôt dans le sens d'une augmentation des moyens que d'une réduction, donc, non, si je comprends bien.
On va dans le sens d'une augmentation des gens touchés. Et c'est ça, c'est de cela qu'il s'agit. Vous parliez des chiffres pour France Média Monde. Effectivement, c'est 135 millions de personnes aujourd'hui par semaine. Vous le savez, c'est 100 millions RFI, France Média, France 24 et Monte Carlo d'Oilia. Et c'est 35 millions sur le net. Donc, c'est le développement de toute cette façon de travailler en coopération et par les développements du numérique qu'il y aura aussi la possibilité d'étendre le nombre d'auditeurs et de Français qui viendront au contact de France Média Monde.
Alors, au-delà de notre propre chapelle, plus largement, donc, où en est la réflexion sur la réforme? Est-ce que l'idée d'un grand ensemble de l'audiovisuel public avec une présidence commune, est-ce que cette idée-là est arrêtée ou pas?
Il ne s'agit pas d'un grand ensemble. Il s'agit, vous savez, c'est un certain nombre de sociétés. Sont des sociétés qui travaillent chacun dans leur domaine. Il y a France Télé, il y a Radio France, France Média Monde, Arte, Lina, TV5. Et l'idée, c'est que chacun fait des choses dans son domaine et jusqu'à présent ne travaillait pas tellement ensemble. L'idée, c'est de les amener à travailler ensemble, ce que nous faisons depuis l'été dernier, dans des groupes de travail qui se réunissent régulièrement pour réfléchir sur les grandes missions. Parce que l'idée aujourd'hui, c'est que cette réforme, rappelons, elle est nécessaire. Les choses changent. Le paysage a changé. Aussi bien le nombre de chaînes, 27 chaînes de la TNT, une centaine sur les box, que les usages. Et il ne faut pas le subir, mais au contraire, à la faveur de ce changement, créer et imaginer, ce qui est fait d'ailleurs ici très clairement. Et donc l'important, c'est d'arriver à travailler ensemble et de les mettre à travailler ensemble. Donc,
mais vous savez que parfois, le terme, vous ne l'avez pas employé d'ailleurs, mais on parle souvent de synergie. Et vous savez que ce terme masque souvent des réductions d'effectifs. Il y a aussi des inquiétudes de cet ordre-là. Est-ce qu'elles sont légitimes?
Alors, je parle plutôt de coopération. Prenons un sujet extrêmement important et extrêmement actuel aujourd'hui, qui est l'éducation aux médias. Il y a des choses qui sont faites sur chacun des médias. Vous en faites, vous participez pleinement, que ce soit RFI, que ce soit France 24. Pour autant, ce n'est pas partagé et ce n'est pas connu du grand public. Une plateforme commune d'éducation aux médias serait une façon de dire au public, voilà, vous pouvez accéder à des contenus, à de l'éducation via l'audiovisuel public. C'est une des missions essentielles. En Angleterre, 85% des jeunes, quand ils étudient, ils savent qu'ils peuvent aller sur la BBC. D'une certaine façon, nos auditeurs ne le savent pas, qu'il y a des tas de choses possibles et accessibles sur vos médias.
Merci Françoise Nyssen. Bonne journée.
Merci.